Voilà, comme il vient de vous être rappelé, on est en ce moment dans une série sur l'homme et sur le thème langage. Mais linguistique informatique, comme son nom l'indique, est une discipline pluridisciplinaire. Et je vais donc anticiper un peu sur les nouvelles technologies, en particulier celles qui sont liées à l'informatique, ces nouvelles technologies étant présentées à l'automne prochain. Alors, je vais commencer tout de suite par un effet spécial de la nouvelle technologie. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace, l'ordinateur HAL comprend l'homme, dialogue avec lui dans sa langue, exécute ses commandes et ressent des émotions. À une année de cette échéance, en est-on là? C'est une des questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors d'abord, regardons les différentes applications de la linguistique informatique. Certaines voitures parlent. Par exemple, elles vous disent que vous n'avez pas éteint vos phares quand vous claquez la porte. Les systèmes de dictée automatique fleurissent. Toute personne a dans son traitement de texte un correcteur orthographique intégré qui propose non seulement de corriger les fautes d'usage, mais aussi éventuellement propose de corriger notre grammaire et notre style. Des systèmes de traduction automatique sont en vente à la FNAC, par exemple. On nous propose régulièrement des photocopieurs ou des téléphones qui traduisent. Les moteurs de recherche du web nous proposent des résumés et des traductions des textes trouvés. Et certaines compagnies de téléphones nous proposent une assistante personnelle virtuelle. Bref, il y a de plus en plus d'applications de la linguistique informatique. Les questions à se poser, c'est quelle est la véritable qualité de ces services? Sont-ils efficaces ou sont-ils gadgétiques, voire inutilisables? Une autre question, a-t-on affaire à des humains virtuels dont on peut évaluer l'âge mental? Dernière question, en 1968, Marvin Minsky, qui était le conseiller scientifique de 2001, l'Odyssée de l'espace, croyait pouvoir situer l'ordinateur HAL à un horizon de 30 ans, c'est-à-dire qu'il devrait exister de nos jours. En sommes-nous loin? Alors, je vais vous présenter mes réponses à ces questions, et évidemment, la suite de mon exposé constituera. Dans la suite de mon exposé, je justifierai ces réponses. Alors, pour répondre à ces questions, il faut distinguer deux types d'applications. Les premières applications sont celles où il n'est pas nécessaire que l'ordinateur comprenne le langage. Alors là, il y en a beaucoup. Je viens de vous montrer différents exemples. Et on peut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus, qu'il y ait vraiment un envahissement total dans notre quotidien. Par contre, les applications où il est nécessaire que l'ordinateur comprenne le langage, d'une part, il y en a très, très peu, et d'autre part, quand elles fonctionnent, ce n'est que dans des domaines restreints et fermés. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des applications où l'ordinateur comprend quand vous lui parlez de réservation de billets de train à la SNCF, mais ce même logiciel, si vous lui parlez ne serait-ce que de réservation de billets d'avion, il ne comprendra absolument rien. Et si vous lui parlez d'acheter une voiture, il est complètement largué. C'est donc de la compréhension, mais dans des domaines restreints et fermés. Et il n'existe à l'heure actuelle aucune application générique, c'est-à-dire une application où l'ordinateur comprendrait le langage, quel que soit le sujet traité. Ça n'existe pas du tout, du tout, du tout. Donc, le plan de l'exposé va suivre ces deux types d'applications. Dans une première partie, je présenterai des applications qui sont éventuellement tout à fait bluffantes, mais où l'ordinateur manipule du langage écrit ou oral sans rien y comprendre ou pas grand-chose. Dans une deuxième partie, je m'attarderai sur une application particulière, la traduction automatique, où l'ordinateur aurait besoin de comprendre, car on sait qu'on ne peut pas obtenir de bonnes traductions sans comprendre. Et là, j'exposerai les principales difficultés rencontrées. Alors, une petite précision, qu'est-ce que ça veut dire comprendre pour un ordinateur ? Ça veut dire que l'ordinateur est capable de calculer une représentation sémantique du texte écrit ou du discours oral. Et cette représentation sémantique doit être suffisamment abstraite pour effectuer du raisonnement dessus, ce qu'on appelle faire des inférences. Donc si par exemple on sait que Pierre est parti aux États-Unis ce matin, on doit pouvoir inférer que Pierre n'est plus là et que donc entre autres c'est pas la peine de lui demander d'aller fermer la fenêtre. Ça doit être suffisamment abstrait pour pouvoir raisonner dessus. Alors je vais vous présenter une première application, ELISA, qui date de 1964 et qui a été créée au MIT. Alors ELISA, c'est une simulation de dialogue écrit entre un psychothérapeute et un patient. Et le psychothérapeute est un ordinateur, c'est un logiciel. Alors voici des exemples d'ELISA. Bonjour, je suis votre psychothérapeute. Parlez-moi de vos problèmes. Je suis très angoissée. Pourquoi dites-vous que vous êtes très angoissée? C'est à cause de ma femme. Parlez-moi de votre famille. J'adore mes enfants. J'aimerais que vous me parliez de vos relations avec vos enfants. Personne ne m'aime. Est-ce que ça vous ennuie que personne ne vous aime? Oui, je me sens seule. Votre vie sexuelle y est peut-être pour quelque chose. Continuez sans crainte. Et ainsi de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, ELISA, c'est vraiment bluffant. On pourrait tout à fait croire à un dialogue entre un psy et son patient. Mais en fait, le psy ne comprend rien, mais rien de ce que dit son patient. En fait, il produit ses réponses par une technique qui s'appelle la technique du pattern matching. Et je vais vous donner quelques exemples de la technique du pattern matching. Alors la première phrase du psy, « Bonjour, je suis votre psychothérapeute, parlez-moi de vos problèmes », c'est un texte figé qui commence tout dialogue. Mais évidemment, il peut y avoir des variantes pour que ça fasse plus comme si c'était un humain qui parlait. « Bonjour, je suis là pour vous écouter et exposez-moi vos problèmes. » « Je suis très angoissée ». Ça, c'est une réponse libre du patient. Le patient, il répond ce qu'il veut. Et cette réponse est stockée dans une variable R1. Et le psy répond, le logiciel, « Pourquoi dites-vous que vous êtes très angoissé ?» Alors, en fait, il active une réponse, « Pourquoi dites-vous que R1 ?» Et il répète ce qu'il y a dans R1, mais sans avoir rien compris de ce qu'il y avait dans R1. Simplement, ça donnerait, « Pourquoi dites-vous que je suis très angoissé ?» Alors, il y a une petite transformation linguistique qui transforme « je suis » en « vous êtes ». Et donc, il dit, « Pourquoi dites-vous que vous êtes très angoissé ?» Une autre technique ruse dans le pattern matching. Donc le patient à maman dit « c'est à cause de ma femme ». C'est une réponse libre du patient qui contient le mot « femme ». Et le psy répond « parlez-moi de votre famille ». Et ça, c'est un ordre systématique du psy dès que la réponse précédente contient un mot de la liste « femme, mari, mère, père, etc. ». Oui, je me sens seule. Réponse libre du patient qui ne contient rien de spécial. Votre vie sexuelle est peut-être pour quelque chose, continuez sans crainte. C'est une réponse du psy quand il ne sait plus trop quoi dire. Alors, bilan sur ELISA, c'est vraiment une application bluffante et elle date de 64. Et l'ordinateur ne comprend rien, mais rien, aux interventions du patient. Pour produire ses réponses, il se contente d'activer une des centaines ou millions de réponses qui sont, ou milliers de réponses qui sont préenregistrées par la technique du pattern matching, plus quelques petites transformations, comme je suis donne vous êtes. Et la technique du pattern matching, elle est très simple à implémenter. Mes étudiants en licence de linguistique informatique implémentent ELISA et s'amusent bien à inventer les réponses du psy. C'est très simple à implémenter. Bon, maintenant, on peut faire quelque chose de très sophistiqué, là, ça prend un peu plus de temps. Alors maintenant, je vais montrer une autre application, REA, qui est toujours créée à MIT, mais qui est à l'heure actuelle. Alors, REA, c'est simulation de dialogue oral entre un agent immobilier et un client. Et l'agent immobilier est un humanoïde. Un humanoïde, c'est un robot à la forme humaine, capable de communiquer par geste, par le regard et par la parole. C'est ce qu'on appelle la communication multimodale. Et comme agent immobilier en anglais, c'est Real Estate Agent, eh ben, on a donné à ce humanoïde le prénom de Réa. Et voici la belle Réa. Alors, je ne peux malheureusement pas vous montrer des exemples de dialogues de Réa, car ils ne sont pas disponibles sur le site web de MIT. Mais néanmoins, je peux établir une comparaison entre ELISA, qui date de 64, et Réa, qui est de nos jours. Entre ELISA et Réa, on est passé d'un dialogue écrit à un dialogue oral. Ça, c'est grâce au progrès énorme de la reconnaissance et de la synthèse de la parole. Et cet automne, il y aura un exposé sur le traitement de la parole. On est passé d'un ordinateur à un humanoïde. Ça, c'est grâce au progrès énorme de la robotique dans ces 30 dernières années. Et d'une manière plus générale, on est passé à la communication multimodale. Et ça, c'est grâce au progrès énorme de l'intégration de différentes technologies. Disons qu'il y a 30 ans, il y avait des spécialistes de la vision, des spécialistes de la parole, des spécialistes du langage, mais on n'arrivait pas à mettre tout ça ensemble. Maintenant, on arrive à mettre tout ça ensemble. Par contre, si on regarde le langage au niveau de la compréhension, il y a un peu de progrès entre ELISA et Réa. ELISA comprend rien, Réa comprend, mais un peu, et dans un domaine fermé, c'est-à-dire celui de l'immobilier. Donc si Réa a voulu parler autre chose que l'immobilier, elle vous répondra n'importe quoi, ou elle vous dira « je n'ai pas compris votre question, reposez-la ». Elle ne peut traiter que des questions qui concernent l'immobilier. Donc, disons, dans tous les progrès de ces nouvelles technologies, on s'aperçoit que le langage est un peu un parent pauvre. Le langage, ces 30 dernières années, n'a pas progressé autant que des domaines comme la vision ou la robotique. Alors, un petit point, parce que sur les états d'âme des humanoïdes. L'autre jour, à la télévision, on présentait un humanoïde japonais. Donc, c'est un petit gars. Et puis, à un moment, il était capable de dire « Mes batteries sont à plat !» avec des gestes, là, comme ça, il y a un petit regard complètement navré. Et le commentaire, c'était « Il confie ses états d'âme ». Moi, je veux bien qu'il confie ses états d'âme, mais à ce moment-là, vous pouvez vous dire que votre transistor, votre voiture, votre téléphone portable, votre répondeur, bref, tous ces appareils vous confient leurs états d'âme. En effet, une lumière rouge s'allume quand leurs batteries sont à plat. Donc, il vous confie ses états d'âme. Toujours sur les humanoïdes, on parle souvent, on entend parler de l'âge mental des humanoïdes. Donc, par exemple, que ce petit humanoïde a un âge mental de 3 ans. Et je pense que c'est faux, très faux. Alors, c'est faux, pas parce que c'est une histoire de 3 ans, pas au lieu de 3 ans, que ça serait 2 ans ou 5 ans. C'est faux parce que la comparaison est fausse. Quand un enfant est en situation d'apprentissage de la langue, il est capable d'établir la correspondance entre une forme langagière et une situation, Donc, il est capable de maîtriser la compréhension, et il est capable de maîtriser dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'une situation et de la décrire par une forme langagière, qui est la production. Donc, un enfant comprend, n'apprend pas le langage sans comprendre. Donc, il est hors de question de le comparer avec Elisa, dont on a vu qu'il comprenait rien du tout. Il n'est non plus pas question de comparer un enfant à Réa, et donc de parler de l'âge mental de Réa. En effet, à ma connaissance, il n'existe aucun enfant qui, en situation d'apprentissage de la langue, ne pourrait parler, par exemple, que de la nourriture. Il saurait parler que de la nourriture. Et puis, si vous lui dites « va te coucher », qu'il ne bougera pas d'un chouïa parce qu'il n'aura rien compris, parce que ça ne parle pas de nourriture. Ou que si cet enfant, il a envie de jouer avec sa poupée, il ne pourra pas dire « maman, je joue avec ma poupée » puisque ça ne parle pas de nourriture. Hein? À mon avis, ça n'a jamais existé, un enfant qui ne pourrait maîtriser le langage que sur un domaine. Ça n'existe pas, un enfant, quand il apprend le langage, il l'apprend dans tous les domaines qui font partie de son quotidien. Okay? Donc on ne peut pas comparer un enfant à Réa. Donc ça ne rime à rien de dire que Réa a un âge mental de 3 ans. Voilà, j'ai fini sur les humanoïdes. Je vais donc passer à la deuxième partie de mon exposé, qui est donc consacrée à la traduction automatique. Alors, la traduction automatique, je rappelle qu'il s'agit donc de prendre un texte sous forme électronique en langue source, noté LS, par exemple français. Ce texte électronique passe dans un ordinateur muni d'un système de traduction. Et le système de traduction fournit un texte sous forme électronique en langue cible, notée LC, par exemple l'anglais, et il n'y a plus qu'à imprimer ce texte. Ok, donc c'est ça la traduction automatique. Alors, pourquoi je vais vous parler en particulier de la traduction automatique? Pourquoi cette application et pas une autre? Bon, c'est évidemment puisqu'elle est dans le domaine de mes compétences, mais en plus de ça, c'est donc une application qui demanderait que l'ordinateur comprenne, puisqu'on sait qu'on a besoin de comprendre pour traduire. Donc, c'est intéressant pour examiner les problèmes rencontrés dès qu'on veut que l'ordinateur comprenne. D'autre part, les besoins en traduction automatique sont énormes. Pour donner quelques chiffres, la Commission européenne traduit 1 200 000 pages par an. Des grosses compagnies comme Aérospatiale et IBM, avec de la documentation technique énorme pour les Airbus, les hélicoptères et tout, c'est de l'ordre du 1 000 000 000 de pages par an. Et quant à la traduction sur le web, ça serait tellement... Enfin non, c'est pas assez inchiffrable, mais c'est vraiment beaucoup. Donc il y a des besoins énormes. Et dernier point intéressant sur cette application, c'est qu'il y a des produits qui existent et que vous pouvez tester ou acheter et voir si ça va en service ou pas. Alors, quelques mots sur les premiers systèmes de traduction automatique. D'abord, je voudrais rappeler que les premiers systèmes de traduction automatique datent de 1946, c'est-à-dire de l'année même du premier calculateur électronique. On n'appelait pas ça ordinateur, on appelait ça calculateur électronique. Donc dès qu'il y a eu des ordinateurs, on s'est posé la question de les faire traduire. Et alors, les premiers systèmes, c'était la traduction mot à mot. Alors, si on doit traduire le chat noir a mangé 2 pommes, on va commencer par faire ce qu'on appelle de la lémmatisation en langue source. C'est-à-dire, en gros, pour les verbes, les mettre à l'infinitif, pour les noms, quand ils sont au pluriel, les mettre au singulier. Donc, dans notre exemple, ça donne les mots « le chat noir manger 2 pommes ». Après, on va faire ce qu'on appelle le transfert lexical entre la langue source et la langue cible. Et donc, à « le », on dit que ça se traduit par « the »,« chat »,« cat »,« noir »,« black »,« manger »,« eat »,« de »,« to » et « pomme »,« apple ». Après, on fait un réajustement morpho-syntaxique en langue cible. Et on est tout content, on a calculé « The black cat ate 2 apples ». Mais la traduction mot à mot, c'est connu, ça a ses limites. Si on traduit mot à mot « un pied noir a mangé une pomme de terre », nous allons avoir « a black foot ate an apple of earth » et ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, par convention, quand une traduction est mauvaise, je l'écris en rouge et je l'écris en verte quand elle est bonne. Alors, je pense que là, ces exemples doivent vous rappeler le fameux « Ciel, mon mari, sky, my husband » devenu célèbre par les œuvres de Jean-Loup Chifflet. Alors, depuis les premiers systèmes qui étaient donc basés sur la traduction mot à mot, on a fait des progrès, mais on voit souvent dans les médias, écrits à la radio, des articles ou des chroniques sur les erreurs de la traduction automatique. Alors, par exemple, là, dans le numéro de novembre 1999 de PC Expert, il donnait des exemples d'erreurs calculées par les systèmes de traduction automatique. Alors là, je vais vous montrer, c'est la traduction de l'anglais vers le français. Je vais vous montrer que les textes en français. Et à la fin de mon exposé, je montrerai le texte source en anglais et, grâce aux notions que j'aurai introduites, expliquer pourquoi le système de traduction automatique s'est trompé. Alors donc, des exemples de traduction automatique. Dans les sociétés où les états modernes de la production règnent, toute la vie se présente comme immense accumulation des lunettes. Pour le même texte, haute traduction, dans des sociétés où les conditions modernes de production prévalent, tous les cadeaux de vie lui-même comme une immense accumulation de lunettes. Alors ça, les médias en font leur gorge chaude de ce genre d'exemple. Alors, pourquoi on arrive à des textes pareils ? Donc, je le répète, on ne peut pas traduire sans réponse. Donc, on part d'un texte en langue source. On doit calculer le sens de ce texte, la représentation sémantique de ce texte. Et à partir de là, calculer le texte en langue cible. Alors, en traduction automatique, le module en charge de la compréhension s'appelle un module d'analyse. Et le module en charge de la production s'appelle un module de génération. Alors, les difficultés rencontrées en analyse et en génération viennent du fait que la langue, c'est une infinité d'ambiguïté. D'une part, une forme linguistique donnée a plusieurs sens, ce sont les difficultés rencontrées en analyse, et d'autre part, un sens donné peut s'exprimer par plusieurs formes linguistiques. Ce sont les difficultés rencontrées en génération. Alors, bien que la génération soit mon domaine préféré, je n'en parlerai pas aujourd'hui, je me contenterai de vous présenter les ambiguïtés en analyse. Alors, les ambiguïtés en analyse, il y a un point très important à comprendre, c'est qu'il y a les ambiguïtés réelles de la langue, mais qu'il y a aussi les ambiguïtés virtuelles introduites par le système d'analyse, et on va en voir plusieurs exemples. Alors, prenons la notion de mot. À l'écrit, la notion de mot est apparemment simple, puisque c'est une suite de caractères encadrés de séparateurs, comme un espace blanc ou un signe de ponctuation. Mais il existe des expressions composées, comme pied noir, pomme de terre, manger des œufs. Et les expressions composées ont une traduction non compositionnelle. C'est-à-dire que la traduction de pomme de terre, ce n'est pas la traduction de pomme suivie la traduction de deux suivie la traduction de terre, ce qui donnerait apple of earth. C'est la traduction du non composé pomme de terre. Et c'est donc potato. Alors, quelles sont les tâches à effectuer pour obtenir des traductions correctes des expressions composées ? Il faut d'une part dresser la liste des expressions composées avec la traduction. Donc, reconnaître, identifier que pied noir, c'est un nom composé, que pomme de terre, c'est un nom composé, et que manger des yeux, c'est une expression verbale composée, et donner sa traduction. Pour vous donner un ordre de grandeur, Eurodicotum, qui est la base de données terminologiques de la Commission européenne, comporte 1 200 000 termes, qui traduit dans 4 ou 5 langues, donne 5 200 000 termes. C'est l'ordre de grandeur. Oui. Pourquoi c'est des chiffres aussi énormes que ça? C'est que dans tous les domaines techniques, les termes sont souvent des noms composés. Tube cathodique, système d'exploitation, c'est des noms composés. Donc dès qu'on est dans les domaines techniques, on arrive à des chiffres de... et la base de données de Rodicotom ne traite absolument pas de tous les domaines. Donc cette première tâche n'est pas si simple que ça. La deuxième tâche, c'est qu'il faut reconnaître les expressions composées dans les phrases. Et la difficulté, c'est que les éléments ne sont pas forcément contigus. Alors, si vous prenez « Zoé a mangé des yeux » Daniel Auteuil, tout va très bien, parce que les deux éléments de l'expression composée, c'est-à-dire « manger » et « des yeux », sont contigus. Mais ils ne le sont pas dans « Zoé a mangé Daniel Auteuil des yeux ». Ok ? Mais il ne suffit pas de dire qu'on a quelque part dans le texte « manger » suivi de quelques mots et des yeux pour se dire qu'on a affaire à l'expression verbale « manger des yeux ». Parce qu'à ce moment-là, on va se dire ça, dans « Zoé a mangé un bouillon avec des yeux », ça n'a pas tout à fait donné la bonne traduction. Donc, il n'est pas facile de reconnaître les expressions composées dans les textes, car elles ne sont pas, leurs éléments ne sont pas forcément contigus. Alors, une autre difficulté vient des homographes. Alors, les homographes, ce sont deux mots avec la même graphie, mais soit avec des catégories de discours différentes. Les catégories de discours, c'est nom, verbe, adjectif, préposition, et ainsi de suite. Et donc, des traductions en général différentes. Soit avec la même catégorie de discours, mais des sens différents. Et je vais illustrer ces deux cas de figure. Auparavant, un petit point terminologique. Vous êtes peut-être plus familier avec la notion d'homonyme, mais les homonymes regroupent les homographes et les homophones. Les homophones, ce sont deux mots qui ont la même prononciation, mais pas forcément la même graphie, comme vert, vert, vert et vert. Alors, les homophones posent de graves problèmes à l'oral pour la reconnaissance de la parole. Mais s'ils n'ont pas la même graphie, ils ne posent pas de problème à l'écrit. Seuls les homographes posent problème. Alors, les homographes de catégories différentes. Par exemple, le, c'est soit un article masculin singulier, comme dans le chat, soit un pronom, comme dans je le vois. Savoir, c'est soit un verbe à l'infinitif, comme je devrais savoir cela, soit un nom au masculin singulier, comme dans « La liberté vient du savoir ». Alors, donc là, avec ces deux homographes catégories différentes, on peut avoir des ambiguïtés réelles, comme dans « Oser le savoir », qui est le nom d'un programme de la Cité des sciences, programme un peu comparable au programme de l'UTLS. Vous avez peut-être vu des publicités dans le métro sur ce programme. Et la personne qui a trouvé ce nom de programme a fait un jeu de mots. Parce qu'en fait, ça, il y a deux analyses. La première, le est un pronom et savoir est un verbe, comme comment a-t-on découvert l'électricité ? Oser le savoir. Et la deuxième, c'est une analyse où le est un article et savoir est un nom. Et donc, on a le groupe nominal, le savoir. Alors, donc ça, c'est une ambiguïté réelle. Là, il y a un jeu de mots dans « oser le savoir ». Ambiguïté virtuelle. Quand vous dites « oser le découvrir », il n'y a pas d'ambiguïté. La seule analyse possible, c'est que « le » soit un pronom et « découvrir » soit un verbe. Puisque « découvrir » ne peut être qu'un verbe. Mais l'ordinateur va se poser la question « est-ce que « le » est un article ou est-ce que c'est un pronom ?» Il va se poser la question... Et il va donc créer une ambiguïté virtuelle. Il va falloir lever cette ambiguïté. Alors, pour lever cette ambiguïté, il faut mettre en jeu les connaissances suivantes, que découvrir est un verbe et juste un verbe, que les séquences article-verbe sont interdites, que par contre, les séquences pronom-verbe sont autorisées, et que donc, le est un pronom. Ça me paraît peut-être pas très compliqué, mais Quand on a une phrase qui pourtant n'est pas très longue, comme « la belle ferme le rideau », tous les mots de cette phrase sont ambigus quant à leur catégorie de discours, sauf le dernier « rideau ». Donc, il va falloir, comme « rideau » ne peut être qu'un nom, que l'ordinateur calcule que « le » est un article et pas un pronom, que « ferme » est une forme du verbe « fermer » et que ce n'est pas le nom « ferme » comme la ferme avec de jolis poulets, que « belle », c'est un adjectif employé comme nom, comme dans « la belle entra », et pas un adjectif comme dans « la belle femme entra », et que « là » est un article et pas un pronom. Alors, donc, ça demande, il y a tout le temps des calculs à faire pour pouvoir lever ces ambiguïtés virtuelles. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait en linguistique et informatique sur ce sujet. Oui, pardon, donne la belle ferme le rideau. Non, pas tout de suite. Attendez, voilà. Ambiguïté réelle versus ambiguïté virtuelle, c'est la catégorie du discours. Donc, en français, qui est une langue à forte morphologie, des ambiguïtés réelles comme « oser le savoir » ou « la belle ferme le voile », je vous laisse deviner quelle est l'ambiguïté réelle de « la belle ferme le voile », elles sont plutôt rares. Mais les ambiguïtés virtuelles introduites par l'ordinateur, c'est un phénomène fréquent et coûteux en temps de calcul. Okay. Mais comme il y a eu beaucoup de recherches dessus, on arrive maintenant à avoir des analyseurs morphologiques du français qui donnent des résultats bons à peu près à 95%. Mais par exemple, les analyseurs morphologiques de l'anglais donnent des résultats plus mauvais, car l'anglais est une langue à faible morphologie. Passons maintenant aux homographes de même catégorie. Donc par exemple, avocat, c'est toujours un nom, mais ça a deux sens. Soit ça désigne un homme de loi et doit être traduit en anglais par « lawyer », soit ça désigne un fruit et traduit en anglais par avocado. Aimer, c'est toujours un verbe, mais ça a deux sens. Soit un aimer un humain, traduit par love, soit un aimer un objet, traduit par like. Donc ça, ce sont des exemples d'homographes de même catégorie. Alors, comment fait-on qu'on a des homographes dans une phrase? On va essayer de les désambiguer par le contexte. Donc, par exemple, quand on a Zoé à manger un avocat, il faut traduire avocat par avocado. Quand on a Zoé à rendez-vous avec un avocat, il faut traduire avocat par lawyer. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté réelle, mais ambiguïté virtuelle introduite par l'analyseur. Lui, il va avoir une ambiguïté. Comment diable dois-je traduire avocat? Et si l'analyseur ne lève pas les ambiguïtés virtuelles, il va produire des erreurs. Donc, il va traduire en « Zoé at a lawyer » ou « Zoé has a meeting with an avocado ». Alors, comment faire pour lever ces ambiguïtés virtuelles? Alors, d'une part, il faut faire une classification sémantique des noms. Donc, dire qu'avocat est de la classe fruit, qui est une sous-classe de la classe comestible. Que avocat est aussi de la classe humain. Et utiliser ces classes de noms pour faire la catégorisation sémantique des compléments de verbes. Donc, par exemple, dire que pour manger, le sujet doit être un animé et que l'objet direct doit être un comestible. Pour avoir un rendez-vous, le sujet doit être un humain et le complément aussi. Donc, il y a ces deux tâches à effectuer qui vont permettre de lever les ambiguïtés virtuelles. Mais ce n'est pas si simple que ça. D'abord, pour la catégorisation sémantique des compléments de verbes. Bon, on vient de voir pour Zoé à manger un avocat, que ça serait humain, manger, comestible. Mais manger lui-même a plusieurs sens et fait partie de différentes expressions composées. Par exemple, on a Zoé à manger de la vache enragée. Comme la vache est un comestible, comme dans Zoé a mangé la vache folle, on pourrait analyser ça comme humain manger comestible. Pas du tout, il faut analyser ça comme humain et l'expression composée, manger de la vache enragée. Manger a d'autres sens de plus. Par exemple, manger au restaurant, qui se traduit en anglais par « have a meal out », et qui est « manger », préposition locative, et une classe restaurant qui grouperait les restaurants, les bistrots, les cafétérias, et ainsi de suite. Autre emploi de manger, ce poêle mange beaucoup de charbon, qu'on peut catégoriser en que c'est un appareil qui mange un combustible. Et on le traduit en anglais par « use ». Autre emploi de manger, les grosses entreprises mangent les petites. Là, on pourrait le dire que c'est organisation, manger, organisation. Okay. Et ainsi de suite, je n'ai pas mis tous les emplois de manger, il y en a beaucoup d'autres. Donc, pour tous les verbes, il faut distinguer tous leurs emplois dans des expressions composées et dans des expressions non composées. Pour chacun de ces emplois, il faut typer tous leurs compléments et associer à chacun des emplois la traduction correcte. Et ce n'est pas une mince affaire. Et là, en plus, ce qu'il y a, c'est que pour la classification sémantique des noms, on peut partir d'une classification simple et de bon goût, de dire que dans les objets, il y a les animés, les plantes et les artefacts, que dans les animés, il y a des humains et des animaux, dans les plantes, il y a des arbres et des fruits, dans les artefacts, il y a des meubles et des plats cuisinés, par exemple. Mais il faut caser comestible. On a vu qu'on avait besoin de cette classe pour manger. Et comestible, des animaux, des fruits et des plats cuisinés. Donc on voit tout de suite qu'on a déjà plus une structure arborescente. Et en plus, il va falloir caser toutes les classes qu'on vient d'introduire rien que pour manger, c'est-à-dire la classe combustible, la classe appareil, la classe resto et la classe organisation. Bref, à la finale, on se retrouve avec un graphe d'une complication inouïe. Et même s'il existe des bons algorithmes de parcours de graphes, ils finissent quand même par perdre un peu leur latin, tellement ces graphes sont complexes. Et là, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à une désambiguation croisée. C'est-à-dire, si on reprend notre petit exemple, Zoé a mangé un avocat, pour désambiguer avocat, donc entre le sens fruit et humain, on a besoin de manger. Et pour désambiguer manger, on a besoin de la catégorie sémantique de son complément, avocat. C'est un peu une histoire du chat qui se mord la queue. Et encore, l'exemple était tout simple, puisque mon sujet, c'était Zoé. Mais si je prends un mannequin à manger un avocat, il va aussi falloir que je désambigue mannequin, puisque mannequin, c'est soit un humain, comme dans un défilé de mannequins, soit c'est un moulage, comme ce qu'on voit dans les vitrines de magasins, et que mannequin, c'est aussi un petit panier pour horticulteurs. Et donc, ce qu'on a, c'est une explosion combinatoire. Alors, pour chiffrer l'explosion combinatoire, c'est que si une phrase a n mots, m1, m2, mi, mn, que si un mot mi a ki sens, et donc en général ki traduction, alors l'ordinateur doit décider entre grand K hypothèse ou K égale grand K égale K1 que multiplie K2 que multiplie KI que multiplie KN. Bref, c'est exponentiel. Okay. Donc là, on dit que l'analyseur surgénère et il doit se débrouiller dans une prolifération d'hypothèses. Alors il y a des cas miraculeux. Ce sont des mots avec plusieurs sens, mais avec la même traduction. C'est par exemple le cas de adopter, qui a deux sens en français, illustré par Zoé a adopté un enfant et le Parlement a adopté une loi. Et au miracle, en anglais, dans les deux cas, c'est le verbe to adopt. Mais les cas miraculeux n'existent pas beaucoup. Par contre, on a des cas catastrophiques. Alors, les cas catastrophiques, c'est des cas où il n'y a pas de désambiguation par le contexte immédiat, c'est-à-dire où en langue, c'est une ambiguïté réelle. Donc, par exemple, Zoé a aimé cet avocat, on ne sait pas. Le verbe aimer ne permet pas de désambiguer pour savoir si avocat, c'est un fruit ou un homme. Donc, on ne sait pas comment traduire aimer, on ne sait pas si ça doit être love ou like, et on ne sait pas traduire avocat, entre lawyer et avocado. Et la catastrophe continue si le contexte qui suit ne permet toujours pas de désambiguer. Zoé aimait cet avocat, pourtant il était véreux. Alors, comme tant un fruit qu'un homme peut être véreux, le système ne sait pas traduire « il était véreux ». Le pronom « il », il ne sait pas en anglais si ça doit être « he » ou « it ». Et quant à véreux, il ne sait pas si c'est « warm-eaten » ou « shady ». Donc, là, l'ordinateur est un petit peu perdu. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'effectivement, le texte « Zoé a aimé cet avocat, pourtant il était véreux », tel qu'il est, il est ambigu et on ne sait pas de quoi on parle. Okay. Mais qu'en situation réelle, on sait tout de suite de quoi on parle. Par exemple, à cause de qui nous a l'interlocuteur, qui émet ce discours, on sait si on est en train de parler des amours de Zoé ou de ce qu'elle a mangé à midi. On le sait par le contexte plus large. Donc en fait, nous, on ne verra même pas l'ambiguïté de ce texte. On désambiguera tout de suite. Mais arriver à formaliser les contextes de production du discours, c'est difficile. On ne sait pas faire ça sur ordinateur. Une autre catastrophe, c'est quand il y a ambiguïté pragmatique. Alors, prenez l'exemple, Zoé hit the carafe against the sink, it broke. Zoé a heurté la carafe contre l'évier, mais après, on ne sait pas comment traduire le pronom it, puisque ce pronom neutre en anglais peut référer soit à la carafe, soit à l'évier. Donc on ne sait pas s'il faut traduire par « il » ou « elle s'est cassé ». Alors en fait, nous on le sait, parce qu'on met en jeu une connaissance du monde qui nous dit qu'une carafe est plus fragile qu'un évier. Donc on va se dire « elle s'est cassée ». Mais là, je viens de parler de connaissance du monde. Là, c'est monumental, c'est-à-dire qu'il faudrait intégrer toutes les lois de la physique, de la chimie, de l'économie, de la politique, de la sociologie, dans un système de traduction automatique pour qu'il soit capable de lever les ambiguïtés pragmatiques. Tout de suite vous dire que c'est peut-être pas pour demain. Alors, je viens de voir les difficultés, on a vu les difficultés sur les mots pleins. Donc, les mots pleins, c'est des noms, des verbes ou des adjectifs. Il y a aussi des difficultés sur des mots outils. Les mots outils, c'est par exemple préposition, article ou auxiliaire. Donc, on a vu plusieurs types de difficultés sur les mots pleins. Il y a des difficultés sur tous les mots outils. Je ne vais évidemment pas les passer en revue. Je vais simplement prendre le cas des articles. Alors, en japonais, le japonais est une langue qui n'a pas d'article. Il n'y a pas d'article en japonais. Donc, les traductions de japonais vers le français, qu'elles soient manuelles ou automatiques, n'ont généralement pas d'article. Alors, pour vous donner une idée de texte sans article, voilà Alexandre Dumas sans article. Arthos avait grande influence sur jeune homme. Conseil de ami joint à cri de propre cœur l'avait déterminé. Maintenant que orgueil était sauvé et vengeance satisfaite, à ne plus revoir Milady. Donc vous étonnez pas trop si vous ne comprenez rien au mode d'emploi de vos appareils fabriqués au Japon. Alors, les ambiguïtés syntaxiques sont aussi nombreuses que les ambiguïtés lexicales. Parce que pour l'instant, dans le type d'ambiguïté, je n'ai parlé que des ambiguïtés lexicales. Les ambiguïtés syntaxiques sont aussi nombreuses, mais je ne vais non plus pas du tout les passer en vue. Je vais simplement donner un exemple. Zoé boit son café chaud. Ça a deux analyses. Dans la première, l'adjectif chaud est épithète du nom café. Et la traduction est « Zoé is drinking a hot coffee ». Dans la deuxième analyse, « chaud » est attribut de l'objet « son café ». Et la traduction est « Zoé drinks her coffee hot ». Okay? Donc là, on a une ambiguïté d'analyse syntaxique, puisqu'on ne sait pas si c'est cette analyse ou c'est la première ou la deuxième. Et des ambiguïtés syntaxiques, il y en a légion. Alors là, une autre difficulté spécifique à la traduction automatique, c'est quand il y a des trous syntaxiques. C'est-à-dire quand il y a une construction syntaxique qui existe dans la langue source, mais qui n'existe pas dans la langue cible. Par exemple, la forme passive anglaise « Zoé was given this book » n'a pas d'équivalent direct en français. Hein, on ne peut pas dire « Zoé a été donné ce livre ». Il faut trouver quelque chose d'autre. Par exemple, on a donné ce livre à Zoé, et je ne dis pas que c'est forcément la meilleure traduction, mais il faut trouver quelque chose d'autre pour traduire cette phrase anglaise. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle les constructions résultatives anglaises, comme « Zoé loved herself horse », qu'il faut éviter de traduire mot à mot, « Zoé a ri elle-même à faune », et il faut trouver une traduction comme « Zoé a tellement ri qu'elle est à faune ». Alors donc, on va reprendre, vu qu'on vient de voir différents types d'ambiguïté, on va revoir les exemples traduits automatiquement. Donc, ça, c'est le texte source. « In societies where modern conditions of production prevail, all of life presents itself as an accumulation of spectacles. » Donc, traduit par le premier système, ça a donc donné ça. Dans les sociétés, les états modernes de la production règnent, toute la vie se présente comme une immense accumulation des lunettes. Alors là, conditions et spectacles sont deux homographes de la même catégorie. Bon, le système A traduit par condition par état, c'est pas génial, mais c'est pas trop grave. Mais surtout, l'énorme erreur, c'est d'avoir traduit spectacles par lunettes. Et puis on voit d'autres petites erreurs, comme par exemple là, immense accumulation des lunettes, l'article n'est pas parfait. Puis on aurait pu avoir un petit article 1 qui se glisse. Si on prend la traduction par le système B, lui, il a fait une autre erreur, il a fait l'erreur sur spectacles, qu'il a traduit comme lunettes, mais il a fait aussi une erreur sur presence, qui est un homographe de catégories différentes. En effet, c'est soit une forme du verbe « to present », soit c'est le pluriel du nom « present » qui se traduit par « cadeau », et pas de chance, le système B a choisi la deuxième solution, qui donne donc ce charabia épouvantable, tous les cadeaux de vie lui-même, comme une immense accumulation de lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la compréhension en TA? Est-ce que les systèmes actuels comprennent ou pas le texte qu'ils doivent traduire? Alors, les prototypes qui sont développés dans les labos de recherche, on peut dire qu'ils comprennent à peu près le texte qu'ils ont à traduire. Mais ce sont des logiciels lents, sur de gros ordinateurs, qui ne fonctionnent que dans des domaines restreints, et avec un vocabulaire réduit, par exemple 3000 mots. Les produits commerciaux que vous trouvez à la FNAC, non, ils ne comprennent pas le texte à traduire. Ils se contentent de calculer une représentation morphosyntaxique du texte source et non une représentation sémantique du texte source. Mais ce sont des logiciels rapides qui tournent sur des petits ordinateurs et avec un large vocabulaire. Pour vous donner une idée, un système de traduction mis sur le marché, vendu comme produit, doit comporter au moins 100 000 ou 200 000 mots. Sinon, il ne se vendrait absolument jamais. Et je vous rappelle qu'en laboratoire, on y arrive avec 3 000 mots. Alors, bilan sur la traduction automatique. La traduction automatique, c'est difficile, mais c'est non infaisable. Les systèmes de traduction automatique progressent lentement, mais sûrement. Et la perspective, c'est qu'ils continueront de progresser lentement, mais sûrement. Et en conclusion, je reprendrai une phrase du professeur Michaud sur les différences entre l'homme et l'animal, et qui a servi à organiser les thèmes de ces conférences. Donc les différences entre l'homme et l'animal, c'est le droit et le langage. Dans la même veine, je dirais que la différence entre l'homme et les humanoïdes actuels, c'est que l'homme comprend le langage, l'humanoïde actuel ne comprend rien, ou vraiment pas grand-chose, et dans des domaines très restreints. Perspective future, Quand verrons-nous des humanoïdes comme HAL qui comprennent le langage et éprouvent des sentiments? Allez, je vous le donne pour 3001. Merci.
Tout de suite les questions.
Alors ici, là, c'est loin. Hein. Est-ce qu'on a des plus près? Ah, on n'a toujours pas de micros. Attendez.
Bonsoir. J'aurais voulu savoir. Là, vous avez parlé de HAL, qui était dans le film 2001. Mais nous avons aussi le film War Games, qui est à peu près tiré sur le même thème, et où il arrive quand même à faire une partie de Morpion. Et la personne humaine arrive à abattre cet ordinateur qui était pour l'armée. Est-ce que plus tard, on aura le cas inverse?
Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des activités qui sont très difficiles à faire pour un humain, ou longue et fastidieuse. Par exemple, une multiplication d'un nombre de 18 chiffres par un nombre de 17 chiffres, en général, on finit par faire une erreur. L'ordinateur, il le fait comme ça. Hein, c'est facile et ils sont créés pour ça. Par contre, des activités que nous, humains, on fait sans réfléchir, par exemple, je vous vois, et je sais très bien que vous êtes du sexe masculin, pas du sexe féminin, essayer de formaliser et de mettre sur un ordinateur qu'en voyant une forme, il soit capable de reconnaître d'une part que c'est une personne et d'autre part de déterminer son sexe, il ne sait pas le faire. Donc c'est pour ça, vous parlez de jouer de Morpion, il y a les fameuses histoires des échecs, où il y a des ordinateurs qui battent les plus grands joueurs d'échecs. Mais ça, c'est typiquement le genre d'activité qu'un ordinateur peut faire, c'est style multiplication plutôt que reconnaissance du sexe d'une personne.
Oui, bonsoir, madame. Il y a deux choses. D'abord, à propos des échecs à l'ordinateur, il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand Kasparov a joué contre l'ordinateur, tous les soirs, l'ordinateur était reprogrammé. Pas Kasparov. Hein.
Absolument, vous avez raison.
Et la deuxième chose, elle tient au pied noir, dont je fais partie. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a une grande difficulté pour la traduction automatique, c'est qu'elle n'a pas introduit l'histoire dans son programme. Parce que depuis 1962, l'Algérie est algérienne. Mais avant, c'était pas une colonie, il y avait trois départements français en Algérie, avec en ville-préfecture Alger, Oran et Constantine. Mon grand-père maternel était l'architecte des...
Excusez-moi, c'est la traduction que j'ai trouvée dans le Robert et Collins.
Ouais, mais il faudrait donc... Je ne sais pas si on ne peut pas introduire, lutter contre cette dernière difficulté que vous n'avez peut-être pas abordée ou rapidement, c'est la difficulté liée à l'histoire pour la traduction automatique.
Oui, ça c'est la difficulté de maintenir des dictionnaires bilingues de bonne qualité.
Bonsoir. Moi, j'ai une question un peu provocatrice parce que, vu votre exposé, ma question est pourquoi travaille-t-on encore pour la traduction automatique? Vous venez de démontrer qu'on n'y arrivera jamais.
Non, je n'ai pas démontré qu'on n'y arrivait jamais. Pas du tout. J'ai dit que c'était difficile mais non infaisable et que les systèmes de traduction automatique progressent lentement mais sûrement. Et on continue. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire la traduction automatique? Je vous ai rappelé que les besoins en traduction sont énormes. Pour Aérospatial ou IBM, c'est 1 milliard de pages par an. Donc s'ils utilisent, et ils font déjà, et la Commission européenne le fait déjà, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des systèmes de traduction automatique qui donnent des résultats qui ne sont pas forcément très bons, mais que ces résultats sont révisés par un humain. Ça change le travail du traducteur, c'est-à-dire que le traducteur révise la traduction fournie par le système. Et des chiffres que j'ai eus de la Commission européenne, sur les 1 200 000 pages par an, il y en a 400 000 qui sont traduits par Sistran, qui est un système de traduction automatique. Et les traducteurs en charge de réviser les systèmes, les traductions produites par Sistran, estiment qu'ils gagnent entre 30 à 60% de leur temps par rapport au fait que si eux l'avaient fait eux-mêmes. Et c'est énorme de gagner 30 à 60% du temps. Et en plus, ils sont débarrassés du travail de frappe. C'est quand même, pas très...
Monsieur, là. Attendez, avant. Monsieur, à vous.
Bon, vous avez situé le début de la traduction automatique dans les années 60.
Non, 46.
40, pardon. Bon, il y a...
Parlez dans le micro.
Oui, pardon. Et vous avez noté qu'on n'a pas progressé comme on l'aurait souhaité depuis 30, 40 ans, depuis que ça existe. Vers cette époque, il y avait le président Mao qui écrivait que quand on a une bonne théorie, on a une bonne pratique. Alors, est-ce qu'il ne faut pas se demander si, puisqu'on progresse aussi lentement et qu'on est autant déçu, est-ce qu'on a les bonnes théories concernant le langage et en un mot que font les linguistes, quoi ? Comment ça se fait que... Comment,
mais dites aussi qu'on fait rien !
Comment ça se fait qu'en mettant des MIPS et des MIPS pour essayer de résoudre la question, on n'arrive pas à faire mieux que ça ?
Ben, j'ai essayé de montrer les difficultés dans mon exposé, le travail à effectuer. Je voulais que je recommence mon exposé, mais je ne sais pas.
Monsieur.
Vous avez récusé l'idée d'âge mental pour un humanoïde, mais est-ce que l'ontogénèse, en quelque sorte, d'un langage humain, les études portant sur l'ontogénèse du langage humain, n'éclaireraient pas le développement le perfectionnement d'appareils de traduction.
Je pense que, pas simplement de système de traduction, il est sûr qu'on a beaucoup à apprendre en examinant l'apprentissage du langage chez un enfant. Je crois qu'il y a une conférence, d'ailleurs, il y a une conférence sur ce thème-là.
Elle a déjà eu lieu.
Elle a déjà eu lieu, oui, c'est ça. On essaye, mais en même temps, si vous voulez, il faut voir que la linguistique informatique, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est essayer de simuler les activités d'un humain. Et comme je le disais tout à l'heure en répondant à monsieur, on a beaucoup de mal, l'ordinateur a beaucoup de mal à simuler des activités humaines que nous faisons très facilement. Et en intelligence artificielle, quelquefois, il y a des systèmes qui fonctionnent qui font le même résultat que ce que fait un être humain, mais sans passer par le même type de processus. L'exemple typique qui est donné, c'est que les hommes ont cherché depuis longtemps à voler, ont construit plusieurs modèles d'avions, et finalement, les avions qui volent, ils ne battent pas des ailes comme les oiseaux. D'accord ? Donc on peut arriver à construire des systèmes qui ont les mêmes fonctionnalités que les humains, mais qui n'y arrivent pas par le même processus. Et bon, c'est pour ça que Réa, qui donc est capable d'avoir une petite conversation sur l'immobilier, je pense que ça ne simule pas du tout, c'est très très loin, c'est vraiment d'autres méthodes, c'est plus évolué que le pattern matching, mais c'est vraiment d'autres méthodes que ce qu'on pourrait imaginer de ce que c'est que l'apprentissage de la langue chez un enfant.
Madame.
Bonsoir, madame.
Je
vous remercie de votre conférence, puisque vous m'avez rassurée ce soir. Je suis traductrice moi-même. Et je crois que j'aurai encore pas mal d'années de travail, je l'espère. En tout cas, je traduis du polonais vers le français. Et ce sont deux langues complètement différentes. Et je voulais vous demander comment... les logiciels de traduction traduisent ou proposent des formes de traduction dans des langues qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Par exemple, les articles n'existent pas en polonais, mais la place des mots dans le polonais en polonais est libre, ou plus ou moins libre, etc. Certes, les traductions techniques permettent, les logiciels permettent un déblayage, disons, mais les traductions littéraires, dont je m'occupe plus particulièrement, demandent tout un contexte, toutes sortes de connotations, civilisations, etc., qui ne permettent pas, à mon avis, de se servir des traductions automatiques.
Oui. Vous faites bien de parler de cette distinction entre traduction littéraire et traduction automatique, traduction technique, disant en gros, il serait assez aberrant de vouloir traduire un roman de Proust par un système de traduction automatique. Les systèmes de traduction automatique, où ils ont le plus de chances de fonctionner bien, c'est dans les domaines techniques, dans les domaines de l'aéronautique, dans les domaines de la chimie ou de l'informatique. Parce que là, les mots seront beaucoup moins ambigus, déjà. Effectivement, les systèmes, on peut obtenir des résultats bons pour des traductions techniques. Quand c'est des traductions littéraires, où il y a plein de connotations, ça, non, ça, c'est pas du tout pour aujourd'hui. Alors, quant au problème de langue, effectivement, là, plus vous prenez des langues qui sont assez éloignées dans leur fonctionnement, sur l'ordre des mots, sur les articles, ou ainsi de suite, plus, pour les traduire automatiquement, il y a intérêt à calculer une représentation qui soit proche d'une représentation sémantique. Si vous restez à un niveau d'analyse morpho-syntaxique, c'est sûr que ça va être assez dramatique. Donc, je pense du polonais vers le français ou du chinois vers le français. Si on ne passe pas par une représentation sérieusement sémantique, là, c'est une catastrophe.
Monsieur, bon. Ensuite madame. Et
alors,
ensuite,
oui,
monsieur,
la traduction automatique est difficile, ça vous l'avez dit et redit. Là, tu l'as. Hein. Mais il y a plusieurs moyens aussi de contourner quelquefois. Il y a des entreprises américaines qui obligeaient leurs rédacteurs d'écrire avec une grammaire simple, des phrases très simples, qui facilitaient la traduction ensuite. Donc ça, c'est un premier moyen de contourner les difficultés et de faire des choses traduisibles dans des domaines strictement techniques. Vous l'avez dit, il y a des questions que je voulais vous poser, mais auxquelles vous avez répondu. Dans le domaine technique, on arrive à faire des choses. Et si on veut une bonne traduction, il faut aussi d'énormes dictionnaires, ce qui amène très souvent dans les domaines techniques à avoir des dictionnaires spécialisés limité à un domaine très, très fermé.
Oui, je suis d'accord. Ça fait une question ? C'est une remarque. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque.
Oui, bonsoir. Sandrine Boulon, ex-traductrice et linguiste chez Reverso aujourd'hui. Je me permets juste d'intervenir pour répondre aux inquiétudes des gens sur la traduction automatique. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue, c'est vrai qu'on est un outil vraiment incroyable pour comprendre. Disons, on arrive à 90% de compréhension à partir d'une langue qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas l'allemand, qu'on se promène sur le web, vous indiquiez, Madame Danlos, le web, effectivement, c'est formidable de pouvoir comprendre dans un premier temps ce que peut contenir l'article. Et puis, ça peut être aussi un outil d'aide à la traduction. On œuvre dans ce sens-là aussi, et qui peut aider les traducteurs. Et dans les domaines techniques, effectivement, quand on travaille sur des dictionnaires spécialisés, on peut aussi arriver à améliorer le niveau de traduction. Donc, je voulais aussi un peu rassurer.
Merci.
Monsieur, vous avez demandé la parole.
Oui, je rebondis partiellement sur ce qu'a dit monsieur avant. On apprend à parler avec des étrangers, autrement qu'en criant plus fort, c'est-à-dire en faisant des phrases simples. On apprend aussi à parler à des machines. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, ça m'amène à la question, qu'est-ce que vous pensez de la langue pivot ? Vous savez, on dit, on transforme toute l'expression française, chinoise, etc., dans une langue pivot qui sert ensuite à faire les traductions dans les langues. Je crois qu'on a travaillé là-dessus à Bruxelles.
Oui, la traduction par langage pivot... peut donner des bons résultats, puisque ce langage pivot, ça serait ça, la représentation sémantique, la représentation du sens, et qui serait commun à toutes les langues. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'est pas du tout défini, ce langage pivot. Il n'y en a pas. On n'arrive pas à définir un langage pivot qui fonctionnerait pour tous les domaines. On y arrive... quand c'est réservation des billets à la SNCF. On y arrive quand c'est domaine de l'immobilier. Vous voyez, quand c'est de domaine restreint, on arrive à créer un langage pivot, mais pour ce domaine. On n'arrive pas à faire un langage pivot qui couvrirait tous les domaines. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a quand les ordinateurs comprennent, et donc en gros, on passe par un langage pivot, c'est OK, mais c'est dans un tout petit domaine.
Monsieur.
Est-ce que il y a aujourd'hui, au niveau des langages sur les, de programmation, quelques outils informatiques qui sont plus adaptés à ce genre de travail? Par exemple, tout à l'heure, vous avez montré un diagramme qui faisait penser à des classifications sémantiques qui devenaient trop complexes et qui permettaient juste de faire des traductions avec 3000 mots seulement. Et ça m'a fait penser à un langage objet avec des classes assez simples, finalement, quelque chose dans ce goût-là. Est-ce qu'il y a des avancées mathématiques ou informatiques qui permettent d'aller plus loin dans la traduction? Est-ce qu'il y a des avancées dans ce domaine?
Ah oui, des avancées sur les algorithmes ou les techniques de programmation, il y en a toujours. Et évidemment, on en profite en linguistique informatique. Ça va même aussi dans l'autre sens. C'est que les progrès en informatique sont souvent venus de progrès en linguistique. Par exemple, si vous avez l'air un peu informaticien, les langages formels définis par Schuschenberger et Chomsky, en fait, au départ, ça venait de la linguistique. Et après, ça a été totalement utilisé en informatique. Mais évidemment, on profite de tout ce qu'on peut profiter des avancées en informatique. Évidemment.
On prend encore deux questions, une ici et une là-haut.
Oui, bonsoir. Claude Lézolévi, je vous remercie beaucoup pour votre exposé que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
C'est qui parle,
je vous vois. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, voilà, on vous voit.
Bien, je vous remercie beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé très intéressant. Je voudrais poser une question sur ce que vous avez dit à la fin, les travaux que l'on fait actuellement. J'ai retenu que on peut travailler avec un corpus de 3000 mots, que c'est lent. Et la question que je vais poser, quelle est la structure de ce corpus en gros, quoi? Est-ce que c'est un corpus général ou c'est le Basic English fait 2000 mots, donc 3000 mots, ça permettrait de faire un Basic French. Est-ce que c'est le cas? Deuxièmement, vous avez dit que c'est lent. Est-ce que vous pouviez préciser enfin, quelle lenteur, enfin chiffrer cette lenteur? Et troisièmement, je voudrais connaître la taille des programmes qui font ça. Approximative, évidemment. Merci.
Oui. OK. Attendez, j'ai dit qu'il y avait deux choses. Attendez. Voilà. J'ai séparé deux types de systèmes de traduction automatique. Ceux qui étaient développés dans des prototypes, dans des laboratoires de recherche et qui avaient un vocabulaire réduit comme 3000 mots. Et les produits commerciaux qui n'avaient pas un vocabulaire réduit et c'est au moins 100 000 ou 200 000 mots. Sinon, un système de traduction n'est pas un produit, n'est pas vendable. Ces prototypes, ils sont franchement pas vendables. Et même si on dit souvent que dans la langue, finalement, on n'utilise que 2000 ou 3000 mots, ce n'est pas possible. Un système de traduction automatique qui ne comporte que 2000 ou 3000 mots et que vous essayez de mettre en vente à la FNAC, vous n'en vendrez pas un. C'est inutilisable. Un système de traduction. Non, mais c'est... Quand il y a de la vraie compréhension, c'est lent et ça marche sur un vocabulaire réduit. Quand il n'y a pas vraiment de compréhension... C'est toujours affiché, oui. Quand il n'y a pas vraiment de compréhension, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est avec des larges vocabulaires. Rapide, c'est instantané. Ah, lent, je sais pas, 3 heures ou... 10 heures. Ouais. Non, attendez, quand je dis rapide, c'est que, par exemple, les systèmes de traduction automatique que vous avez sur le web, il faut que tout soit instantané. On se demande pourquoi. Quand vous avez un moteur de recherche, il faut, manifestement, c'est l'argument commercial, il faut que le moteur de recherche vous fournisse des réponses tout de suite. Quitte à ce qu'elle soit très mauvaise, qu'il y ait plein de trucs qui ne vous intéressent pas du tout et qu'il n'y ait pas du tout les textes qui vous intéressent, mais il faut que ça soit instantané. Les traductions sur le web, c'est pareil, c'est instantané. Les traductions que vous pouvez essayer de Sistran et Reverso, c'est complètement instantané. Donc les prototypes qui sont développés dans les labos de recherche, ce n'est pas possible.
Oui, mais je demandais des chiffres,
précisément. Oh, mais... Allez, une journée pour une page.
Bien, une dernière. La taille. Oh.
Des gros.
Une dernière question. Dernière question, monsieur, avant qu'on se sépare.
Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé de compréhension. Apparemment, un ordinateur qui comprend, c'est un peu plus dur pour un ordinateur. Enfin, pour traduire, il faut comprendre. Je veux savoir, est-ce que la compréhension, telle que vous l'expliquez, ça se limite, enfin, ça se limite. C'est les diagrammes qu'on a vus tout à l'heure, de sens, de classe, etc. Est-ce qu'il y a une autre façon de définir la compréhension? Est-ce que c'est un rapport avec la façon dont l'humain comprend? Voilà.
La compréhension pour un ordinateur, c'est qu'il soit capable de calculer ce qu'on appelle une représentation sémantique, c'est-à-dire une représentation du sens, et que cette représentation soit abstraite pour faire du raisonnement dessus. C'est ça qu'on dit qu'un ordinateur est capable de calculer. Et la compréhension chez un humain, c'est sûr que quand on a compris, si vous dites quelque chose et que je comprends, je suis capable de raisonner sur ce que vous venez de dire. Donc en fait, là, on essaierait d'arriver à peu près au même niveau, mais on essaye. Hein. Ah, je ne dis pas du tout qu'il y arrive. C'est comme l'histoire de l'avion qui vole sans battre des ailes. Hein. Je ne dis pas du tout que l'humain passe par une analyse morphologique, syntaxique, sémantique. Non, certainement pas. Hein. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait faire.
Bien. Merci beaucoup.